Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Fred Weiss, Cyril Linette, Pascal Duprat, Ludovic Duchesne, France-Belgique en huitième de finale de l'Euro, le retour du SEUM. Est-ce que ça va peser? Est-ce que ça va jouer dans cette rencontre? C'est bras de faire des GG dans quelques instants. Le salaire de Vincent Labrune pose-t-il problème? Le patron de la LFP a dû s'expliquer cette semaine devant le Sénat, lui qui a triplé ses revenus grâce à CVC. Et alors que la Ligue 1 est au bord de la crise, ce sera la punchline à 10h30. Et puis le grand départ du Tour de France à partir de 11h. Nous serons en direct de Florence. Tadej Pogacar est le grandissime favori. Le suspense est-il déjà mort? Justement, dans les grandes gueules du sport. Ah, pour vous habituer à cette petite musique qui fait son retour. L'occasion du départ du Tour de France. Nous vous offrons deux places dans la caravane du Tour de France avec Tourtel Twist. Vous assisterez à l'arrivée de l'étape du jour dans un espace VIP situé sur la ligne d'arrivée. La personne tirée au sort pourra choisir parmi 4 étapes pour gagner vos deux places dans la caravane du Tour de France avec Tourtel Twist plus l'accès VIP. Eh bien, vous envoyez Tour dès maintenant, Tour T-O-U-R, au 7-32-16. Le grand gagnant sera là avec nous en direct dans une heure maintenant. Allez, tout de suite, c'était le 10 juillet 2018.
RMC, le bras de fer GG.
C'est fini. La France est en finale de la Coupe du Monde 2018.
Je dirais pas que l'équipe en face est meilleure que nous.
Attention, De Bruyne avec Hazard, la frappe d'Hazard à côté.
C'est dommage, mais bon, ça c'est le foot.
Double accélération d'Eden Hazard, pas de faute, attention à l'entrée de la séparation. Lukaku qui la talonne pour Hazard. Hazard face à. Non, il n'y a pas tout le coup franc de Giroud. Il n'y a pas la faute. Ils s'en sortent bien les joueurs de l'équipe de France.
Sur les détails, chaque équipe joue à leur force.
Mertens devant le but, le ballon dégagé de la tête. Pas Pavard, faut monter sur De Bruyne. Il loupe sa demi-volée.
Notre force, obviously, c'est avec le foot. Leur force, c'est défendre.
Par contre, on voit des Belges s'agacer.
Il y a un but en corner et c'est dommage.
La frappe de Griezmann, la tête de qui? Doumtiti, Samuel, Doumtiti au premier poteau.
Le seum, c'est un mot désormais inscrit dans le dictionnaire, langage familier certes, mais très utilisé. Avoir le seum, être très énervé, dégoûté, avoir la haine. C'est exactement le sentiment des Belges après la défaite en demi-finale de Coupe du Monde 2018 face à l'équipe de France. Une défaite traumatisante pour les joueurs et tout un pays qui s'estimait plus fort que les Bleus ce soir-là. La dernière heure, quotidien belge a même fait un vœu cette semaine. Deux points, ouvrez les guillemets. Autant de notre vocabulaire à tout jamais, le mot seum. Notre débat, la revanche du seum. Est-ce que ça va jouer sur cette rencontre? Dans le coin gauche, la team, oui, représentée par Fred Weiss. Et il est tout seul dans le coin droit, la team, non. Pascal Duprat, Cyril Linette, Ludovic Duchesne, le retour du sadique évidemment. Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial à Stuttgart auprès de la Belgique, c'est Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas.
Salut à tous.
Les Belges ont-ils toujours le seum?
Oh, sans même évoquer le mot seum dans la question, sans même évoquer le représentant du seum Thibaut Courtois absent pour 7 euros, les supporters belges abordent le sujet tout seuls.
Bon, Courtois n'est pas là, il y a une petite guerre entre les Français et les Belges. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va pas parler du seum.
Nous, le seum, on a l'habitude, on l'a travaillé pendant plusieurs années. Donc maintenant, on va essayer de passer le seum à la France. Comme ça, on est sûr de prendre notre revanche, quoi.
Je pense que ça va être encore une défaite pour la Belgique, malheureusement. Et on va encore en entendre parler pendant 4 ans.
Les souvenirs sont mauvais pour les Belges. En conférence de presse jeudi, le défenseur Thomas Meunier a raconté son traumatisme après l'élimination de 2018. Dans la presse, l'ancien du PSG avait fortement critiqué le jeu des Bleus.
Je la sens un peu moins depuis que j'ai quitté Paris, je vous avoue. Là, je l'avais dans les oreilles assez constamment. Ça reste toujours bon enfant, c'est le principal. On n'aura pas vraiment le droit non plus de trop fanfaronner parce que le passé a déjà écrit un petit peu l'histoire. Et si la France nous bat, ils diront, les Belges, c'est toujours la même chose, quoi.
Que les Belges se rassurent, le jeu développé par l'équipe de France devrait être sensiblement le même. Lundi soir, Loïc Vos, journaliste et suiveur de l'équipe nationale pour le média Wallfoot, estime que la France est un voisin un peu trop bruyant.
Oui, il n'y aura pas Thibaut Courtois qui a le roi du seum, c'est vrai. Je pense qu'en Belgique, il y a eu un peu d'agacement par rapport à ça. Un sentiment de... Les Français reviennent tout le temps à la charge. Tout le temps à la charge. Ils veulent nous marcher dessus. Le fait d'entendre déjà 3 jours avant le match, cette Belgique n'a rien, on n'a pas le droit de perdre contre eux, ça serait scandaleux. Ça rappelle presque l'Euro 21 de France-Suisse, en fait. Vos éditeurs se rappellent de la séance de pénalty de ce France-Suisse.
un pays lassé des railleries françaises depuis 6 ans. Manu Jos est le commentateur des Diables Rouges pour la RTBF 2018, reste ancré dans sa mémoire, mais il pense aussi à un autre match.
On a quand même eu un autre depuis, ne l'oublions pas. C'était dans la phase finale de la Ligue des Nations à Turin, avec là aussi un scénario quand même assez incroyable. Une première mi-temps excellente de la part de la Belgique. Et au final, on se fait quand même là aussi éliminer par la France. Donc il y a quand même toujours ce petit plafond de verre et cette vérité historique qui veut finalement que, pour schématiser, la France, on la bat toujours en match amical et jamais en match officiel, ce qui est un petit peu un problème.
Mais ces derniers temps, la Belgique est sous tension. Les sifflets du public belge après le match contre l'Ukraine ne passent pas, mais un grand match arrive face à la France. Ils seront tous derrière leur équipe lundi soir. Il n'y a rien de mieux qu'une revanche face aux voisins français pour créer une union sacrée.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ces réactions des Belges à deux jours de cette rencontre, la revanche du SEUM. Est-ce que ça peut jouer sur cette rencontre, oui ou non? On vous a posé la question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Pour l'instant, c'est extrêmement serré. Hein. Ouais. C'est oui 44%, non 56%. Fred, tu es quand même derrière, tu es tout seul, tu commences. Pourquoi oui? Pourquoi
alors, ça va? Oui, alors déjà, je viens de découvrir ce qu'était le multiverse. Alors, parce que Pascal Duprat, qui est un coach, qui est un grand coach, un homme que j'admire, est en train de me dire qu'il se servirait pas de ce biais pour motiver ses troupes. Je suis extrêmement surpris. Parce que quoi de mieux que pour motiver ses troupes, justement, parler du passé, parler de ce qui s'est passé, attiser cette haine, attiser la motivation de ses joueurs, que de parler de ce seum. Je suis extrêmement surpris. Après, les gens vont me dire, les joueurs n'y étaient pas. Sauf qu'ils ont été bercés, biberonnés à ça. On leur en parle tous les jours. Les supporters, il suffit de voir ce qui se passe dans les médias. Il suffit de voir quand on interroge des supporters. Qu'est-ce qu'ils disent? On va leur refiler le seum. Oui. On est revanchards, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette haine, elle s'est transmise à cette génération. Et le coach, sinon ce serait le pire coach possible et imaginable, il va transmettre cette idée. Et je sais que Pascal dit évidemment qu'il me servirait de biais pour motiver mes troupes, parce que c'est logique, la haine, la revanche, c'est le meilleur biais. Pensez à Michael Jordan qui disait, je le prends personnellement, les Belges l'ont pris personnellement, non, mais... et ils vont être ultra motivés grâce à ce seum.
Arrêtons le débat, il a gagné Fred. Non, franchement,
c'est très convaincant. Bravo, Pascal, Pascal,
non, franchement, ouais,
t'as
bravo,
été interpellé, Pascal, t'es obligé de répondre. Et je rappelle juste que
tu parlais
de d'équipe belge qui a changé. Quand même, il y en a 5 qui ont participé à ce somme. Hein. Il y a De Bruyne, Lukaku, Tillmans.
Oui, mais il y en a que deux
qui sont titulaires. Hein.
Bah, peut-être que deux qui sont titulaires. Lukaku, mais voilà. Quand on parle de somme, on dit souvent c'est un truc de supporters. Mais pardon, ça a été quand même lancé par les joueurs eux-mêmes en après-match et qui en ont fait des tonnes aussi. Pascal, tu as été interpellé.
Ça, surtout, ce qui incarne le somme de 2018, c'est la déclaration de Thibaut Courtois après le match. Lui, pour le coup, il nous a fracassé. Il a dit qu'on jouait pas et qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils sont pas joués, qu'il avait la haine, donc il avait le seum. Or, Thibaut Courtois, il refuse d'aller en sélection. Parce que depuis quelque temps, on lui avait pas filé le brassard, donc il refuse d'aller en sélection. Donc déjà ça, c'est un argument qui est favorable au fait que le seum n'aura aucune incidence. En plus, en 2018, la Belgique est devenue numéro 1 mondial à l'indice FIFA, donc elle représentait l'équipe à
c'est toujours
à
le petit contre c'était, le grand, c'est le petit
non, mais c'était le favori du mondial. C'était le favori du mondial et crois-moi, en termes de jeu, c'était bien meilleur que la Belgique d'aujourd'hui. De Bruyne, il est un peu en dessous par rapport à ce qu'il était. Il était incroyablement bon à ce moment-là et il y avait un milieu de terrain fantastique. Fellaini, Hazard et j'en passe, et des meilleurs. L'équipe de France, j'en appelle à la mémoire. En 2018, les matchs de poule, les trois matchs, aussi médiocres.
Mais Pascal, comment ça nous embrouille? Moi, je t'ai posé une question simple. Est-ce que tu te servirais du biais, du seum, si t'étais coach, oui ou non?
Je pense que dans ce cas de figure-là, ça serait une erreur. Parce que les Belges sont inférieurs aux Français. Donc, si tu vas que dans l'émotion, je pense que les Belges vont encore perdre.
Justement, quand t'es inférieur, il faut trouver un autre biais pour
trouver pas que dans l'émotion.
Non, mais Fred, je te redonne la main. C'est un truc de supporters, en fait, que les supporters en repartent. Pourquoi pas, ils ont été traumatisés. D'ailleurs, ils sont tous très pessimistes sur ce match à venir. Il y a trois joueurs qui jouent aujourd'hui qui sont encore d'actualité. C'est Vertonghen, De Bruyne et Lukaku qui étaient présents à l'époque. Tout le monde est passé à autre chose. Je pense que Thomas Meunier a dit le mot juste. Il a parlé de chamaillerie. Ça va pas plus loin. On a rejoué contre eux. Il y a une nouvelle défaite des Belges.
Ils ont dans la tête. Pourquoi imagine s'ils reperdaient une nouvelle fois le double seum. Je t'assure qu'ils ne sont pas là.
Pourquoi on a parlé de seum à l'époque? Puisque c'est vrai que peut-être ils ont eu leur meilleure génération. Donc ils avaient une occasion incroyable d'aller en finale et peut-être de la gagner, ce qui ne leur est jamais arrivé. C'est plus du tout le cas. Il faut
mais
se rappeler des matchs.
Psychologiquement, on est rentré dans leur tête.
Mais bien sûr que oui.
C'est ça en fait. Mais l'équipe de France se joue aussi là peut-être.
L'équipe de France ces dernières années a donné ce sentiment de pouvoir être battue sur des matchs qu'elle a gagnés. Moi, je me rappelle de l'Euro, une demi-finale contre l'Allemagne, c'était la même chose. Le quart de finale au dernier mondial contre l'Angleterre, c'était la même chose. L'équipe adverse a toujours ce sentiment qu'elle peut gagner, mais avec Didier Deschamps, c'est toujours à la fin la France qui gagne.
Mais justement,
c'était déjà la même chose avec la Belgique.
Mais si tu veux t'accorder justement.
Mais les joueurs, ils sont passés à autre chose parce qu'ils ont eu d'autres événements, ils ont eu d'autres matchs. Et ils sont
les
vraiment.
Les supporters sont là pour leur rappeler.
Ils ont basculé vers autre chose.
Et les quelques joueurs qui subsistent sont là pour le rappeler.
Non, Cyril, Pascal, je te donne la main. Cyril Linette.
Oui, non, mais moi je trouve ça marrant cette histoire de somme. C'est un levier comme un autre. Il faut rappeler que la France et la Belgique, la Belgique est le pays qu'on a le plus rencontré dans notre histoire. 75 confrontations, la première en 1904. On fait 3-3, la deuxième en 1905. On perd 7-0. Donc il y a peut-être un somme qui date pour l'équipe de France de 1905. Et pendant des années.
Je ne me souviens pas, tu étais peut-être là.
Non, Christophe Cessieux. Peut-être Christophe Cessieux.
On parle de 2018. Et là, on rappelle un tout petit peu mieux.
Non, mais pendant des années, on a joué jusqu'aux années 70, tous les ans, un match France-Belgique qui s'appelait le match sympathique. C'était une manière de dire, voilà, ce sont deux pays qui s'entendent bien. Non, moi je pense que ça peut jouer à la marge, mais pourquoi j'ai plutôt répondu non, même si je suis très sensible aux arguments de Fred, c'est parce que je pense, comme Pascal, que ce serait une erreur pour l'un et l'autre des sélectionneurs, et surtout pour les sélectionneurs belges, d'aller là-dessus, parce que son équipe, elle a rien à voir avec 2018. C'est une équipe déclopée. Le sujet des supporters belges, c'est pas tellement la revanche contre l'équipe de France, c'est plutôt vous êtes nuls, on vous cive quand vous qualifiez avec après un 0-0 piteux contre l'Ukraine. Ils sont obligés de rebrousser chemin quand ils se dirigent vers les tribunes. Donc j'ai l'impression que l'enjeu pour la Belgique, c'est de sauver une compétition alors même qu'ils ont une équipe qui n'a pas du tout le même niveau qu'en 2018. Et on n'est pas très loin quand même d'être sur le même plan du côté de l'équipe de France. On a quand même un peu deux éclopés du premier tour.
Donc
qui vont
deux éclopés du premier tour.
Deux comment équipes qui n'ont pas du tout prévu de se rencontrer.
Comment les différencier justement quand deux équipes sont éclopées, que tu essayes de faire passer la pression sur autre chose, sur dire effectivement on a été nul sur le premier tour, on sait qu'on est plutôt jugé sur ça, bon, on va essayer de passer ça sur le seum, essayer de se faire accompagner par le public.
Mais Fred, t'es sportif de haut niveau, l'enjeu est situé autrement. Le sélectionneur.
Mais tu vois, j'ai un exemple en plus très concret par rapport à ça.
Mais non, mais l'enjeu aujourd'hui, par exemple, t'as pris Pascal à partie, mais le sélectionneur n'est plus le même aujourd'hui. Domenico Tedesco, il est loin de tout ça.
Mais non,
il n'était pas là à l'époque,
c'est l'équipe aujourd'hui.
Il a déjà assez de soucis avec son équipe aujourd'hui. Il se fait siffler après un match contre l'Ukraine. La Belgique a été battue contre la Slovaquie. Ils ont d'autres soucis que l'équipe de France.
Ils ont ces soucis-là
à la rue totale.
Pour essayer de réveiller un petit peu le patriotisme, pour réveiller un petit peu l'énergie, c'est ça. Et donc, je vais te raconter une anecdote.
Moi,
je suis né en Lorraine, d'accord ? Donc, rien à voir avec Limoges-Pau. Par exemple,
c'est pas grave.
Je suis arrivé à Limoges. Je n'avais jamais joué contre Pau. J'ai détesté déjà. Et qu'est-ce que ça donnait? Quand je jouais contre eux, j'étais surmotivé. Pourquoi? Parce que je les détestais. C'est exactement ce qu'ils vont essayer de faire. Essayer de motiver les joueurs à détester encore plus les Français pour avoir ce petit surplus de motivation qui te permet, quand le jeu est à un match égal.
Et bien essayé, mais ils t'ont dit que non. Ils t'ont répondu. Thomas Meunier, il a dit que c'était autre chose. S'il parle de chamaillerie, ça n'existe plus.
C'est pas parce qu'il le dit en conférence de presse qu'on est obligé de le croire.
C'est sûr qu'ils disent que la vérité.
En fait, de toute façon, qu'il y ait besoin d'un supplément d'able pour la France ou pour la Belgique, ça tombe sous le sens. C'est quand même un huitième de finale de championnat d'Europe, c'est pas neutre. Donc, fatalement, tout le monde va être extrêmement motivé. L'objectif, c'est de battre l'équipe adverse, c'est de faire en sorte qu'on les déteste. Chacun se prépare à sa manière. Mais le plus important pour la Belgique, c'est de maîtriser son milieu de terrain, c'est de maîtriser son football, et c'est de faire en sorte que Lukaku, il frappe une fois de temps en temps cadré pour espérer marquer un but à l'équipe de France qui est infranchissable derrière.
On est au-delà du technique, Pascal. On est au-delà du technique dans ce genre de match. On est dans le ressenti.
Alors à ce moment-là, ça voudrait dire que jamais une seule fois, parce que
de haut niveau,
on peut pas jouer que sur ses valeurs, Fred.
C'est normal,
Pascal.
C'est dommage que je puisse pas finir. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis pas en train de dire que la France va gagner facile. Attention, le match va être très compliqué. Mais de mon point de vue, si les Belges sont uniquement sur les émotions et les ressentis sur l'équipe de France qui les torche en permanence, c'est pas la bonne manière de gagner contre l'équipe de France.
C'est plutôt se faire
un complexe supplémentaire.
Je suis d'accord, uniquement non, mais ça fait partie des petits suppléments d'âme qui te permettent de gagner des matchs.
On sent le sportif, Fred. On sent le mec qui a connu la transpiration des vestiaires. Bien, Fred.
je reprends la main parce qu'on parle surtout du côté belge, mais maintenant côté français. On va retrouver en Allemagne Jeannot Rességuier, l'un de nos suiveurs, la voix du foot sur RMC évidemment. Bonjour Jeannot.
Bonjour tout le monde.
Salut Jeannot.
Est-ce que les Français Français en parlent. Est-ce que les Français craignent aussi les Belges, même s'ils ont l'habitude en compétition officielle, on l'a dit, de gagner face à eux?
Alors, même si les Bleus savent que de toute façon rien n'est parfait chez eux aussi, ils se sont rendus compte en voyant les matchs des Belges sur les écrans de leur camp de base que leurs adversaires n'étaient quand même pas mieux lotis. Alors, beaucoup de joueurs ont disparu hein, depuis ce 10 juillet 2018, vous en parliez, mais le seum est toujours là, d'autant qu'il y a eu cette défaite en demi-finale à la Ligue des Nations en 2021 avec un scénario assez catastrophique pour les Belges. Alors, le discours est bien rodé chez les Belges, et quand Wout Faes dit qu'il n'a pas peur des Bleus, cela n'inquiète pas du tout, mais pas du tout les joueurs de l'équipe de France. William Saliba, d'ailleurs, en a même souri.
Nous aussi, on n'a pas peur de la Belgique. On a peur de personne. Et s'il n'a pas peur de nous, tant mieux pour lui. On verra lundi et on va tout faire pour gagner.
Et voilà, tout faire pour gagner, c'est effectivement un autre tournoi qui débute avec l'élimination possible à chaque match. Donc un autre discours de la part de Didier Deschamps, une autre préparation, et avec en plus 6 jours pour justement travailler ce 8e de finale. C'est tout ce que préfère le sélectionneur Didier Deschamps.
Évidemment, je reviendrai te voir pour connaître le planning un peu de nos Bleus. Hein. Il y a une conférence de presse qui va débuter dans une heure, tout au long du week-end, avant ce 8e de finale. Pascal Duprat, je voudrais venir te voir, toi, l'entraîneur Didier Deschamps. Est-ce que pour toi, tu considères que c'est le point de départ de la France qui cristallise ce jeu, j'ai envie de dire, pardonnez-moi, je vais me laver la bouche après, chiant.
Ugly.
En fait, ouais, est-ce que cette demi-finale est rentrée dans la tête des Belges, mais également de nos adversaires? Tu citais le match face à l'Angleterre.
C'est un lieu commun.
En quart de finale, c'est un lieu commun.
L'Allemagne aussi.
C'est un lieu commun parce que tu penses que c'est pour les Belges ou pour les Portugais, les Espagnols qui viennent d'apprendre, qui sont dans leur côté du chapeau. Tu penses qu'ils sont tranquilles si jamais ils venaient à rencontrer l'équipe de France? Non, l'équipe de France est une équipe qui est crainte parce que c'est une des meilleures équipe du monde. Et l'équipe de France, elle n'a pas pour habitude de réussir, à part se qualifier, ses premiers tours, les tours, on va dire, qualificatifs pour les matchs à coup près. Et à partir de là, eh bien, la France, et Didier Deschamps, il a l'habitude de se faire critiquer.
Pas tout à fait d'accord, Pascal, quand même. Parce que pour les
il a l'habitude de se faire critiquer. Ouais, quand il gagne le mondial en 2018, le premier tour était aussi indigeste, les matchs de l'équipe de France. S'il n'avait pas beaucoup de certitudes défensives, et aujourd'hui, ses deux meilleurs joueurs, Mbappé et Griezmann, n'ont pas commencé leur tournoi.
Ouais, mais
ça va venir.
Ouais, si je peux,
c'est
si
une
je peux.
Prédiction.
Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que la maîtrise de Didier Deschamps, Mbappé se casse le nez au premier match, c'était pas prévu. Deux, ils jouent le deuxième match pour se qualifier. Ils se qualifient pas, ils font match nul. Trois, ils jouent le troisième match pour finir premier du groupe. Ils finissent pas premier du groupe. Donc, pour le moment, pour l'équipe de France, rien, contrairement à ce que dit Didier Deschamps, c'est pas grave. Ils vont se refaire. Mais rien, absolument rien ne s'est passé comme prévu sur ce premier tour. On a perdu Mbappé, en tout cas, il est diminué. On sait que Griezmann n'est pas en forme. On n'a pas fini premier du groupe. Et on se tape la plus grosse partie du tableau alors qu'on avait tout lieu de l'éviter. Donc, ok.
Et on ne marque pas des buts, ce qui le chagrine énormément.
Voilà, ça réjouit peut-être pas les adversaires, on ne peut pas dire que le début de cet euro ait été maîtrisé par l'équipe de France. On est à l'envers pour le moment.
Ok, je reprends la main. Jeannot Rességuier, rapidement le programme du week-end, là, jusqu'à ce 8e de finale pour les Bleus.
Juste quand même, parce que c'est ce qui, on va dire, nous intéresse au quotidien. Kylian Mbappé a reçu un nouveau masque qu'il a entraîné hier à l'entraînement, qui remonte un petit peu plus au-dessus du nez et un peu plus plaqué sur le visage, donc beaucoup plus supportable et derrière lequel il transpire beaucoup moins. Tous les joueurs étaient présents à l'entraînement hier. Coman va être papa pour la 4e fois et devrait rejoindre son épouse en Suède dans les prochaines heures. Donc il va
faire des bonnes nouvelles.
Le groupe, comme ça avait été le cas, souvenez-vous, pour son 3e enfant en 2021. Antoine Griezmann, son retour titulaire se confirme, mais pas encore, coach Duprat, le système tactique. On verra ce qui va se passer dans les prochaines séances d'entraînement. Conférence de presse, tu l'as dit, Jean-Christophe, 11h30 à Paderborn. On aura Konaté et Kamavinga. Et puis entraînement à 17h30 qui sera ouvert seulement 15 minutes des séances d'entraînement où pour les journalistes, les observateurs, ceux qui tentent de craquer les huis clos, non, nous n'obtenons aucune information, ce qui prouve bien qu'on est dans un autre tournoi pour Didier Deschamps. Et les Bleus partiront demain pour Düsseldorf, certainement après un entraînement ici à Paderborn, parce que la dernière fois qu'ils ont joué à Düsseldorf, ils s'étaient retrouvés à l'autre bout de la ville dans un stade qui était ouvert aux quatre vents et ça n'avait pas plu du tout aux sélectionneurs.
Merci beaucoup Jeannot Rességuier pour ces dernières informations.
Merci,
dans une heure donc la conférence de presse, évidemment on passera une petite tête pour écouter nos Bleus à deux jours de ce huitième de finale face à la Belgique. Merci beaucoup Nicolas Pelletier d'avoir été également avec nous en direct de Stuttgart pour nous rapporter des propos belges. Et puis nous avions un bras de fer à faire tout de même, il ne faut pas l'oublier, nous sommes partis à 56%, non ça ne va pas jouer contre 44%, oui. Eh bien, je suis d'accord avec vous, il s'est superbement bien battu, Fred Weiss.
Mais,
et pourtant, il a perdu deux points encore.
Ah, voilà.
C'est du 58-42 désormais. Ouais. Fred.
Et pourtant, je vous prends tous au bras de fer.
Non, mais Fred, Fred, tu sais bien que c'est truqué.
Oui, je me doute.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour parler.
J'ai le somme et je vais le garder.
On va parler d'argent. Est-ce que le salaire de Vincent Labrune pose problème? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Voilà, il n'était pas en train de se marrer, évidemment. On vous a rediffusé quelques extraits de Pascal Duprat. Voilà, qui rigole, qui le débat, il ferraille avec notamment Fred Weiss. Mais il s'amuse dans cette émission. Toujours avec donc Fred Weiss, Pascal Duprat, Cyril Linette, Ludovic Duchesne dans une dizaine de minutes. Le zapping des GG, on s'en fout pas. Des informations à vous donner, vous me direz si ça vous intéresse ou non. Notamment la Russie qui a décidé de ne pas envoyer de judoka à Paris pour les Jeux Olympiques. Décision forte de la Fédération russe de judo. On en parlera ou pas. Ça dépend de vous, évidemment. Alain Boschung chantait « Ma petite entreprise ne connaît pas la crise », une phrase qui pourrait parfaitement s'appliquer à Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel, qui a dû s'expliquer mercredi sur sa rémunération devant le Sénat, une rémunération qui a triplé depuis l'arrivée de CVC en 2022, alors que le foot français, vous le savez, est en pleine crise des droits TV. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Le conseil d'administration de la Ligue, en l'occurrence les présidents de club qui sont souverains sur ce type de décision, ont décidé de porter ma rémunération à 1 200 000 euros brut annuel, considérant que l'investissement qui avait été le mien, les responsabilités qui sont les miennes, les crises que nous avons traversées, les succès que nous avons rencontrés, les prix de marché et le benchmark européen des rémunérations européennes méritaient ce type de rémunération effectivement depuis septembre-octobre 2022.
Pas facile hein, de s'expliquer sur son salaire, évidemment, surtout quand c'est télévisé. En plus, j'ajoute que Vincent Labrune a touché une prime de 3 millions d'euros après l'accord passé avec CVC, en plus évidemment de la rémunération qui a triplé. Son salaire pose-t-il problème? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Ludovic Duchesne?
Oui.
Cyril Linette?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Cyril Linette, pourquoi non?
Fred est encore tout seul?
Non, c'est Ludo.
1 200 000 euros, ça va paraître beaucoup évidemment à 99,9% de nos auditeurs, et je le comprends, mais c'est un salaire assez aligné sur ce que peut être celui d'un patron d'entreprise. Il y a des benchmarks qui sont réalisés, comme l'a dit Vincent Labrune, pour une industrie à 1 milliard d'euros à peu près, et quand on compare effectivement à d'autres présidents de grandes ligues européennes. C'est peut-être le moment d'expliquer d'ailleurs comment s'établit un salaire, hein. À part quand on a sa boîte, on ne décide pas soi-même de son salaire. Il y a un conseil d'administration, c'est ce que Vincent Labrune a expliqué, et c'est le conseil d'administration qui a décidé souverainement de tripler son salaire. Parfois, il y a même un comité des rémunérations dans les entreprises, et tout ça est fait très sérieusement. Moi, ce qui m'étonne un peu plus quand même, c'est qu'on n'entende pas parler de part variable. Bon, il y a eu l'histoire de la prime, effectivement, mais CVC a amené 1,5 milliard au football français. On sait qu'il y a un parachute actionnable en cas de départ, des indemnités de départ, que le dirigeant peut actionner lui-même. Ça arrive dans certaines entreprises, c'est évidemment très profitable au dirigeant quand il peut le faire de lui-même, c'est pas simplement soumis à la décision du conseil, mais en général, les patrons d'entreprise, leur rémunération qui peut atteindre facilement ces niveaux-là, elle est quand même très fortement conditionnée à une part variable. Souvent, la moitié du salaire, voire les deux tiers du salaire, correspond à une part variable qui est fixée en fonction d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs. Et là, évidemment, l'objectif de négociation des droits télé aurait pu figurer comme un objectif majeur dans la rémunération. Ça me laisse à penser que encore une fois, et c'est pas la responsabilité personnelle de l'un ou de l'autre, mais encore une fois, je pense que le football français a été assez léger sur tous ces éléments de discussion, comme ils le sont sur à peu près tous les sujets business de la LFP, et que moi je pourrais de nouveau encourager les présidents du football français à appliquer au niveau de leur passion qui est le football les mêmes règles que celles qu'ils essaient d'appliquer dans leurs entreprises. Ce serait beaucoup plus sérieux. Donc c'est pas du tout personnel lié à l'un ou à l'autre, mais globalement ça donne l'impression d'avoir été, comme toujours, géré de manière un tout petit peu légère.
Dans ce contexte, évidemment, on a du mal à comprendre, même si c'est une rémunération qui date de 2022, mais quand on la prend aujourd'hui comme ça et qu'on la prend, on se dit, mais comment c'est possible? Et j'imagine que ça, c'est ce point-là qui t'a choqué, Ludovic.
Oui, moi, je n'ai rien contre les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ici, dans cette émission...
Pourquoi tu regardes ici directement?
Non, mais ici, dans cette émission, on a des dirigeants d'entreprise. Cyril, on a des joueurs de basket. Fred, on a un entraîneur, Pascal. Ils ont côtoyé, ou eux-mêmes, peut-être, ont touché d'énormes sommes d'argent. Ça ne me gêne absolument pas. Le truc, c'est que vu la situation aujourd'hui du football français et le principal objet qui était les droits TV, qui datent depuis l'été dernier quand même aujourd'hui, et on n'a toujours pas l'once du début d'une solution, je suis gêné par rapport à ces sommes, oui, puisque le football français va ou est déjà dans une grande, grande difficulté. Je trouve que ça manque de transparence, je trouve tout ça assez opaque. D'ailleurs, Michel Savin, donc le sénateur et le rapporteur de cette commission, s'il y a une commission, c'est bien aussi qu'il y a des soucis quelque part, a démontré que il y avait des gros soucis, par exemple au niveau du conseil d'administration qui a décidé
c'est très nébuleux, ça c'est pour le moment,
voilà, qui a décidé nébuleux de donner ces sommes. Les présidents ont appris eux aussi a priori qui payait ou combien on devait donner à Vincent Labrune. Je trouve que c'est quand même assez grotesque. Et dernière chose, je trouve aussi que cette somme et ces bonus, ce parachute en fait, devait être donné à Labrune. Il sera donné de toute façon, mais en cas de départ ou s'il n'est pas
volontaire.
Voilà, ou s'il n'est pas réélu en septembre prochain. Il se trouve qu'il se représente. Donc c'est déjà un souci. Et comme le dit le rapporteur et le sénateur, comme il travaille moins, puisqu'aujourd'hui il a créé une société commerciale, il travaille moins, il touche plus, son salaire a été multiplié par 3. Ça fait trop, c'est beaucoup trop. Mais et
c'est là que le problème.
Et on reparlera du parachute dans quelques instants. Mais juste un exemple, parce que le Havre, qui est en procédure judiciaire, hein, le club du Havre, en procédure judiciaire contre CVC, parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas tous touché, et c'est le seul club, hein, pas touché assez d'argent de CVC au moment de la crise, et pour cause. Seulement 1,5 million d'euros dans leur caisse après l'accord passé avec CVC de plus d'un milliard, contre au moins 33 millions pour 14 des autres clubs de l'élite. Donc ils se sentent floués évidemment. Et cette semaine, on a tout de même appris que le Havre était le seul club de Ligue 1 sanctionné par la DNCG qui va encadrer la masse salariale.
Il n'y a pas de relation, même si la DNCG marche main dans la main avec la LFP, je pense que ça on l'a bien compris. Il n'y a pas de relation, si ce n'est que le Havre n'ayant pas touché beaucoup d'argent se retrouve en difficulté financière. Bah oui. Après, on ne peut pas comparer le salaire d'un dirigeant. C'est un salaire qui est imposé, hein, 1,2 million. Une fois que vous êtes imposé, il touche à peine la moitié.
Bien sûr, mais
c'est pas tout à fait pareil.
Brut,
ouais. C'est pas tout à fait la même chose.
Quand il touche une prime de 3 millions d'euros et que Le Havre, club de Ligue 1, touche 1,5 million d'euros.
En fait, le problème, c'est pas l'argent.
Je ne veux pas faire de la démagogie.
L'argent, c'est jamais le problème. Le problème, c'est les résultats. Et effectivement, si la Ligue avait signé avec un diffuseur pour 1 milliard, tout le monde dirait, mais c'est normal qu'il touche cet argent. Et donc, c'est là que
se situe. Rapporté aux résultats,
c'est pour ça que dans les entreprises, on met une part variable.
Ça peut poser un vrai problème. Mais les sommes qu'il touche, c'est des sommes normales pour quelqu'un qui a des responsabilités énormes, de chef d'entreprise qui fait énormément de chiffre d'affaires. Donc c'est assez logique. Mais encore une fois, ça revient sur la table parce que ça ne va pas fonctionner. Si ça fonctionne, personne ne dit rien.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça n'a pas fonctionné. J'en appelle à votre mémoire. Vincent Labrune et ses équipes, ils ont réussi à obtenir 1,5 milliard en créant une société commerciale. Et ça a déjà
à quelles conditions,
bien été. Ça a aidé le football français qui était à l'agonie déjà à cette période-là. Donc
mais évidemment.
Donc ça, on peut pas le reprocher d'avoir défendu son salaire. Et ce sont les présidents de club, ou en tout cas le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, qui agit pour tous les présidents de club par délégation, qui a décidé de lui donner son salaire. Moi, ce qui me choque, c'est le fait qu'il ait une double casquette. C'est qu'il soit aussi président de la société commerciale, qu'il a le droit, que les dirigeants n'aient pas été suffisamment vigilants pour verrouiller quand même, pour pas lui donner toute puissance.
Alors, ce qu'il dit, c'est que c'est la LFP LFP en personne morale qui est présidente. Et donc, il agit comme un membre actif de la LFP dans cette nouvelle société.
Mais c'est un peu différent. Et c'est normal. Le président de club aurait pu mettre un verrou supplémentaire.
Ça, je suis d'accord.
C'est normal. Le président de club à la tête de cette société commerciale.
C'est normal qu'il soit rémunéré pour être à la tête de cette société commerciale du fait que, justement, ce n'est pas lui le président. C'est la LFP en tant que personne physique.
Mais ce qui n'est pas normal, c'est que les présidents et le conseil d'administration apprennent énormément de choses avec cette commission.
Je suis pas certain qu'ils apprennent. S'ils apprennent, alors ils se mettent en défaut. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vigilants.
J'ai connu ce type de gouvernance à la tête du PMU, puisque c'est pareil, c'est l'émanation effectivement des sociétés de course. Il y a un conseil d'administration. On avait un conseil quand même assez professionnel. Moi, je crois que le conseil d'administration de la LFP, les présidents, est un peu trop léger. Je pense pas que ce soit nébuleux. Je vois pas d'embrouille derrière tout ça. Je pense que c'est léger. Ils ne lisent pas suffisamment.
C'est nébuleux parce que les patrons de CVC sont pas capables de dire oui, on reverse ça. Et dans ce sens-là, c'est nébuleux.
Oui, je pense qu'ils ne lisent pas suffisamment.
On parle pas de broutille.
Mais non, mais Kita et Nicolas, on dit on n'a pas bien lu le pacte d'actionnaires dans la même audition.
Même CVC.
Mais c'est CVC qui me semble.
Donc je pense que tout ça est un petit peu léger et mériterait. Oui,
CVC, ils ont appris qu'ils versaient la moitié du salaire de Vincent Labrune sur la rémunération de 1,2 million
d'euros. C'est vraiment que par rapport à ça.
Les présidents sont les patrons, par délégation sont les patrons. On leur demande de diriger le football français par le biais de la LFP. Ils doivent être vigilants lorsqu'effectivement ils ont
sur des millions.
Voilà. Et je trouve que tout ça est un peu léger, ça manque de professionnalisme.
Pour terminer sur ce dossier, je voudrais vous faire écouter quelque chose. C'est un petit peu long, on l'a raccourci, mais c'est une séquence assez étonnante parce qu'on parler du problème du salaire, de la prime, mais également, et vous l'avez évoqué, du parachute en cas de départ. Écoutez cet échange, à un moment donné dans cette édition, entre Vincent Labrune et donc Michel Savin, le rapporteur de la commission.
Si vous décidiez de ne pas vous représenter au mois de septembre, donc une indemnité forfaitaire brute s'élèverait à 24 mois de rémunération, bonus compris. Est-ce que cette délibération a été revue au vu de l'augmentation du salaire, parce qu'aujourd'hui elle représente, si vous décidiez de ne pas vous représenter, un bonus de 5 millions
Bon, ça c'est sur... Merci de votre question, je vais vous répondre. Effectivement,
mais
il y a
moi, ça me fait pas rire.
Non, mais moi ça me fait pas rire non plus, parce qu'il y a une délibération qu'on fait à un instant T en 2022
qui est toujours d'actualité
sur des montants précis qui ont été...
Non, il n'y a pas de montant.
Non, mais attendez, autant je considère qu'on a fait une opération exceptionnelle au sens littéral du terme en levant 1,5 milliard d'euros auprès de CVC. Et je trouve pas anormal que les présidents de club aient voulu me gratifier d'un montant de rémunération et global exceptionnel pour la réussite de cette opération. Donc pour vous répondre franchement, si cette disposition existe encore, de toute façon, on va la remettre, on la remettra sur la table.
Voilà, on va remettre le parachute sur la table.
Non, juste autre info, c'est que Arnaud Rouget, qui est directeur général de la LFP, lui aussi a pris un bonus d'1 million d'euros. Enfin voilà, donc c'est aussi un chiffre important. Ce qui me gêne, moi, c'est que Vincent Labrune nous dit dans cette même audition, il dit c'est justifié compte tenu de ce que l'on a fait depuis plusieurs années. Et justement, si on regarde le bilan de la LFP ces dernières années, je pense que non. Alors non, ça n'est pas justifié. On parle seulement que de droit TV, mais il y a d'autres soucis. La sécurité dans les stades n'a jamais été aussi grande. Il y a d'autres soucis aujourd'hui dans le football que la Ligue n'a pas réglé ou a mal réglé. Donc cette rémunération, non, n'est pas justifiée.
Ok, je reprends la main les copains parce qu'on est un peu pris par le temps. 10h46, on revient dans quelques instants, on s'en fout pas, beaucoup d'informations à vous donner et quelques-unes savoureuses comme d'habitude, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h50, les grandes gueules du sport, toujours avec Ludovic Duchesne ce matin, Cyril Linette, Pascal Duprat, Fred Weiss. À partir de 11h, nous serons en direct de Florence pour le grand départ du Tour de France. Le suspense est-il déjà mort? Les GG ne sont pas d'accord, mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors, des informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. Je rappelle la règle pour Ludo. Si tu me dis je m'en fous, tu n'as pas le droit évidemment à la parole, même si une des GG dit une énorme saucisse.
Ah, je m'en rappelais. Ça fait longtemps que je suis pas venu, mais quand même.
Première information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la Russie qui a décidé de ne pas envoyer de judoka à Paris pour les JO. On s'en fout pas, Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Cyril Linette.
On s'en fout pas.
Non, je m'en fous pas. Ludovic Duchesne, ok. Face aux conditions fixées par le CIO et qu'elle juge humiliantes, la Fédé russe de judo a donc tranché hier. Elle n'enverra pas, je le disais, ses judokas russes aux Jeux Olympiques de Paris. Les Russes avaient pourtant qualifié 12 combattants directement pour les Jeux Olympiques et le comité international leur avait imposé de n'en prendre que 4 maximum. Voici ce que dit la Fédé russe. Face à cette situation, notre Fédé a pris une décision radicale et n'acceptera pas de telles conditions humiliantes. Fred Weiss.
C'est dur. Honnêtement, c'est hyper difficile comme posture parce que t'as des athlètes qui sont qualifiés, qui ont le droit d'y aller, qui n'iront pas. Je trouve que je sais pas si c'est politiquement correct ce que je vais dire, mais je trouve que ça bien finalement que les Russes n'y aillent pas parce que c'est un bloc. On y va à 12 ou on n'y va pas et ils n'y vont pas. Ils assument leur choix. C'est dommage pour ceux qui avaient gagné le droit d'y aller.
Et pourquoi uniquement sur le judo et pourquoi pas une position plus globale? Est-ce qu'ils n'auraient pas été plus forts?
Je suis complètement d'accord. Ouais. Mais au moins ils ont une fédé de judo qui est plutôt plutôt cohérente dans ses choix et voilà.
Après, c'est juste ce que j'allais dire.
Il faut rappeler qu'ils n'ont pas le choix. Le CIO a invité par exemple 22 Russes et 17 Biélorusses dans tous les sports des Jeux Olympiques. Donc après, il faut rappeler que les athlètes doivent avoir fait preuve de neutralité pour être invités. Donc c'est assez compliqué comme principe. Et c'est vrai qu'ils sont pris entre la responsabilité de leur pays dans cette guerre et leur sport eux-mêmes. Des fois, ils n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour eux de gérer ça. Je pense aux tennisman Medvedev, Rublev, qui n'ont toujours pas donné leur accord ou pas pour participer à ces Jeux Olympiques. Donc c'est extrêmement compliqué d'être pris dans cette guerre alors que eux, le plus souvent, de toute façon ils sont sur le circuit toute l'année, n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Et pour eux, j'ai quand même envie de compatir parce que
je trouve que cette cohérence de la fédération de judo qui si on n'y va pas tous, on n'y va pas. Bah, je trouve ça plutôt intéressant. Ouais. Voilà,
ok, allez, on va passer à autre chose. Quoi. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner. Il n'y aura très certainement aucun Français sur 100 mètres au JO de Paris. Là, c'est pas de notre faute, hein. On décide pas de ne pas envoyer de. Mais là, ils sont pas qualifiés pour l'instant. On s'en fout pas, Fred Weiss.
Je m'en fous.
Tu t'en fous. Pascal Duprat.
Non, je m'en fous pas.
Ok. Cyril Linette.
Je m'en fous.
Ok.
Non, je m'en fous pas.
Alors, ce serait une première depuis 1932. Aucun Français ne devrait participer à l'épreuve reine des Jeux Olympiques cet été à Paris. Hier soir à Angers, on y sera d'ailleurs demain, délocalisation de cette émission pour les championnats de France d'athlétisme. Donc, avait lieu le 100 mètres de ces championnats de France. Dernière chance pour les sprinteurs de réaliser les minima fixés à 10 secondes tout pile. Et notamment le champion de France, le nouveau champion de France, Pablo Mateo, n'a pu faire mieux qu'un chrono à 10,08. Et sauf miracle, il ne pourra pas prétendre à disputer les Jeux Olympiques. Alors pourquoi? Déjà, sa position au classement sur Road to Paris 2024, eh bien le Français est sélectionnable. Il est 56e sur 56, donc il est qualifiable. Sauf que la Fédé française a décidé, pour garantir un niveau de performance élevé, d'ajouter des critères, et notamment de celui de figurer parmi les 24 meilleurs sprinteurs mondiaux. Il est donc 56e aujourd'hui. Il faudra un concours de circonstances assez improbable pour qu'il se qualifie, parce que la date butoir, c'est le 30 juin. Son classement peut uniquement progresser, parce qu'il va pas courir de nouveau, il peut uniquement progresser s'il y a d'autres concurrents un peu partout dans le monde, se cassent un peu la figure et baissent au classement. Sinon, c'est mort.
Non, je trouve ça dommage. Comment ils peuvent faire pour baisser au classement? Il y a juste le forfait, parce que les temps, ils les ont déjà réalisés, les autres.
Oui, mais il faut des mauvais temps, parce que j'imagine qu'en tout cas, il y en a d'autres. D'accord. Qui vont essayer de se qualifier directement en passant cette barre des 10 secondes, et s'il y a des mauvais temps, ils reculent au classement. Mais bon, non, ça paraît hautement improbable.
Ce qui est dommage pour eux, c'est que Pablo Mateo, Jeff Herius ou encore Dylan Vermont, les trois Français qui ont terminé de trois premières places, ont à chaque fois battu le record personnel. Et Pablo Mateo, c'est un grand espoir du 100 mètres français. Il a battu son record, il est à 10,08. Et je trouve qu'aller au JO, c'est une expérience pour lui qui lui aurait sans doute servi. Donc je trouve que c'était une bonne expérience. Peut-être qu'il aurait été en quart, en série, en demi-finale. Et ça aurait été de toute façon bénéfique pour lui. Donc je trouve dommage pour ces jeunes sprinteurs, ils sont très jeunes tous, de ne pas les avoir emmenés.
Oui, et on faisait ce débat sur la natation qui impose des critères de performance assez élevés pour justement bien figurer au JO. C'est un peu pareil en athlétisme sur 100 mètres. Et finalement, ça les prive de compétition, Pascal.
Oui, ça veut pour ma part, ça veut dire que les minima sont trop ambitieux, parce que de pas avoir de sprinteur français sur l'épreuve reine de la discipline reine par excellence des Jeux Olympiques, franchement, c'est fort dommage pendant les Jeux Olympiques qui se déroulent en France. Franchement, c'est dommageable de pas avoir de français inscrits. Donc les minima, pour ma part, ils sont trop élevés, tout simplement.
A priori, Pascal, ils font quand même le 4x100, mais c'est vrai que ça aurait été bien qu'ils courent individuellement.
Ah, c'est dommage, Cyril avait quelque chose à dire, mais il m'a dit je m'en fous, non, donc évidemment, il n'a pas le droit à la parole. Non, c'est la règle de ce jeu, évidemment, qui est cruelle. Sachez, et demain, évidemment, tu pourras nous appeler, car on sera en direct d'Angers, Cyril. Si tu veux poser la question à Romain Barras, le directeur de la haute performance de l'athlète, qui sera avec nous dès 9h30 en direct d'Angers pour ces championnats de France d'athlétisme. Il y aura également Mélina Robert-Michon, Teddy Tango, qui seront nos invités. Bref, on parlera d'athlète, puis également du Tour de France.
Tu pourras poser la question pour l'Euro.
Ben exactement, je poserai la question pour Cyril. Quel dommage, Cyril. Il fulmine et tout ça, je suis désolé. On a coupé son micro en plus. 10h56, on se retrouve dans quelques instants. Le Tour de France, est-ce que le suspense est déjà mort? On sera en direct de Florence. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.